Le taureau par les cornes, proposition paysanne. C'est la chronique de la Confédération paysanne de l'Ain. 15 minutes par mois pour se pencher sur des questions agricoles avec des paysans et paysannes de l'Ain. Bienvenue à toutes et tous. Bonjour à vous, auditeurs et auditrices de Radio B. Je suis Marie, animatrice à la Conf de l'Ain, et je reçois tous les premiers mardis du mois sur Radio B un ou une membre de la Confédération paysanne. Nous revenons à l'antenne après quelques mois d'interruption. Les élections aux chambres d'agriculture qui se déroulaient au mois de janvier nous ont tenus loin du studio. Ces élections sont à présent terminées et les résultats seront connus cette fin de semaine. En les attendant, on a trouvé pertinent de revenir aux origines de la Conf et de la Conf dans l'Ain. C'est avec Alain Mie et Xavier Fromont que nous allons échanger aujourd'hui. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis Alain Millet, donc je suis paysan retraité. J'ai été responsable à un moment porte-parole de la Confédération paysanne. Voilà, et maintenant je suis à la retraite, mais je continue de militer dans différents niveaux.
Et donc, moi je suis un peu l'habitué de l'émission, donc Xavier Fromont, je suis éleveur de vaches limousines à Confrançon, en Bresse. Et je suis co-porte-parole de la Confédération paysanne de l'Ain et co-porte-parole de la Confédération paysanne Auvergne-Rhône-Alpes.
La Conf existe depuis 1987. Alors d'où vient-elle ?
La Confédération paysanne n'est pas arrivée de nulle part, parce que bien avant 1987, déjà en 1973, avec quelques collègues, j'avais été élu au CDJA, dans le Centre des jeunes agriculteurs. Et déjà, l'aspect productiviste de l'agriculture qui était développé par les organisations à l'époque qui avaient le monopole de la représentativité des agriculteurs ne nous convenait pas. Donc on militait pour un syndicalisme de travailleurs déjà, une motion qui avait été présentée dans un rapport au Centre national des jeunes agriculteurs. Et donc à partir de là, dans l'Ain, pour continuer de nous retrouver et de se faire connaître, on avait édité régulièrement un petit journal qui s'appelait « Paysans, paysannes de l'Ain », qui reprenait un peu les thèmes que l'on voulait développer.
Ça marche. Le pluralisme syndical a été reconnu en 1981 et les élections suivantes ont lieu en 83, donc la Conf n'existait pas encore. Que se passait-il en 83 dans l'Ain ?
En 83, c'est la première fois que l'on a pu... que la Confédération paysanne a pu présenter des candidats aux élections Chambre d'agriculture. Et on avait eu 3 élus à ce moment-là. Et c'était le début quand même d'une autre parole dans les organisations agricoles. C'était relativement difficile. Mais malgré tout, c'était important de faire entendre cette voix. Et déjà, à l'époque, on était déjà pour une reconnaissance et une meilleure rémunération du travail des paysans. Pour aussi une meilleure qualité de production, donc en limitant les intrants, en préservant la terre et en ménageant les ressources en eau déjà. Donc c'est dans cette continuité-là que la Confédération paysanne, après, a développé tout ça et a affiné ses positions.
Et du coup, comme la Conf n'existait pas, c'était quelle organisation syndicale étaient ces candidats ?
À l'époque, il y a eu d'abord une association des paysans travailleurs et puis ensuite un syndicat de paysans travailleurs. Mettait travailleurs, c'est pas parce que les autres paysans ne travaillaient pas, mais c'était pour marquer cet attachement à la valeur du travail des personnes et pas à l'aspect productivisme du métier.
D'accord. En 1989, donc 6 ans plus tard, donc la Conf existe et lors des élections en Chambre d'agriculture, elle gagne la représentativité au niveau national lors des élections en obtenant 18,6% des voix. Elle devient alors le deuxième syndicat agricole en France. Qu'en est-il dans l'Ain ?
Dans l'Ain, donc on était effectivement aussi le deuxième syndicat agricole et on avait à ce moment-là 3 élus. Qui portait ce souci déjà d'une autre agriculture au niveau de la Chambre d'agriculture. Mais en fait, c'était très difficile, même si on pouvait s'exprimer, il n'y avait pas de souci, mais très difficile de faire passer nos positions. De toute façon, le courant majoritaire nous écrasait un petit peu quand même.
Ça, on le retrouve encore en ce moment, Xavier, toi qui es élu chambre depuis quelques mandats. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, qu'est-ce que j'en pense? C'est que ce pluralisme agricole, il a été obtenu de hautes luttes. On voit par des mouvements importants, le mouvement des paysans travailleurs, la Fédération nationale des syndicats paysans, aussi des dissidences au sein de la FNSEA, hein, qui sont, Alain, tu me démentiras pas, mais qui se sont créés petit à petit dans les années, fin des années 70 et dans les années 80. Mais que du coup, le pluralisme, il n'est pas vraiment encore accepté ou passé dans les mœurs au niveau des organisations professionnelles agricoles. Et on a toujours tendance, les élus, l'État, à survaloriser la FNSEA et tous les organismes qu'il y a autour. Donc dans l'Ain, on est l'un des rares départements à avoir toujours une Confédération Générale de l'Agriculture, qui est en fait une officine de la FNSEA, puisque c'est le président de la FNSEA de l'Ain ou son représentant qui est président de cette CGA et qui a toujours finalement le monopole des relations un petit peu avec notamment le conseil départemental, mais pas que, hein, voilà. Et c'est cette CGA qu'on met à toutes les sauces et qui ne garantit pas pour nous justement le pluralisme de la représentation des paysannes et des paysans. Pour nous, la Chambre d'agriculture est cet organisme pluraliste et qui devrait être valorisé. Et voilà, c'est un combat, c'est toujours un combat de faire accepter ce pluralisme, en tout cas, et c'est toujours difficile. Moi, je voudrais quand même aussi parallèlement à ce que Alain a dit, moi, il me semble que quand même l'action des travailleurs paysans avant la Confédération paysanne, il s'est aussi matérialisé à travers des luttes vraiment très importantes, notamment la lutte pour le Larzac contre l'extension du corps militaire du Larzac, qui a été une grande victoire, une grande réunion aussi des militants paysans, aussi dans ce qu'ils ont d'ouverture avec le monde en général. Donc ça a été un point vraiment très important. Mais dans les échanges qu'on avait avec Alain avant d'intervenir, pour préparer notre intervention, on citait aussi la lutte contre l'intégration. L'intégration, alors c'est vrai que les auditeurs ne sauront pas exactement ce que c'est, mais ça demande à être précisé. Mais donc l'intégration, c'était en fait d'un contrat qui liait le producteur, l'agriculteur à une firme. Et en fait, il était payé au travail qu'il faisait. C'était en fait matérialiser ce que ça pouvait être, c'était Uber, quoi, en fait. En gros, c'était un peu ça. C'est-à-dire que le type, il travaillait, on lui fournissait l'aliment, on lui fournissait les animaux, et puis il avait un contrat, et en fait, ces contrats étaient mal ficelés, ou étaient du coup plutôt bien ficelés pour les firmes, et ça leur permettait de payer au moins cher possible le paysan, et puis voilà. Donc ça, c'était un combat vraiment très important, et des paysans travailleurs, voilà. Donc on peut le noter aussi.
Oui, mais ça a été quand même une victoire parce qu'on a réussi, c'était bien avant Uber, à faire transformer ces contrats d'intégration en contrats de travail, ce qui amenait une autre rémunération pour l'agriculteur.
Oui, et ce parallèle, on peut encore le faire maintenant, encore une fois avec Uber, parce que c'est aussi une lutte des syndicats aujourd'hui pour faire reconnaître ces contrats comme des contrats de travail, hein, voilà, avec toute la protection sociale qu'il y a derrière. Et voilà. Et on est finalement dans quelque chose d'assez similaire. Hein, voilà, du point de vue de la protection sociale des paysans, on est aussi un petit peu dans cette situation-là où, quelque part, on est toujours dans le moins-disant, il faut diminuer les charges et tout ça, voilà, alors qu'en fait, c'est pas du tout cette logique-là qu'il faut enclencher. Et nous, on est pour, au contraire, étendre plutôt les droits sociaux et donc rémunérer les paysans en fonction de ça.
Ce que je voulais dire aussi, c'était que toute la démarche qu'on développe, c'est pas que des paroles, ça a été beaucoup aussi des actions, des actes. Par exemple, il y a aussi eu la lutte contre les OGM, où là, dans l'Ain, on s'était très fortement impliqué, entre autres en participant à un fauchage d'OGM à Saint-Georges-d'Espéranche, c'était le premier dans l'Ain, dans France même. Et grâce à ça, je pense, on a évité d'avoir des OGM partout dans notre alimentation. Dans les actions aussi, ça a été aussi d'élaborer une charte d'agriculture paysanne. c'est-à-dire essayer de concevoir une démarche où on prenne en compte à la fois la rémunération du paysan, sa protection sociale, en même temps produire une nourriture de qualité et préserver l'eau et la terre pour l'avenir. Donc c'est tout ça pris en charge globalement et on a fait des diagnostics sur un certain nombre de fermes pour essayer d'arriver vers une évolution et pas se contenter de dire on veut continuer comme avant, les pesticides on en a besoin. Non, nous ce qu'on cherchait c'est à transformer l'agriculture, aller vers un mieux disant.
Et c'est toujours ce que la CONF cherche aujourd'hui.
Oui, c'est sûr que les combats sont constants, on va dire, très cohérents dans le temps. Hein. Moi, c'est ce que je retiens. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que les combats, aussi bien le fauchage des OGM que également le démontage de Milo, du McDo de Milo. Non, bon, pas démonté Milo, on a démonté que le McDo de Milo. Et, c'était vraiment important et ça a été un point pour les agriculteurs. Enfin, pour moi, un jeune agriculteur qui a démarré ma carrière dans les années 90, au milieu des années 90, ça a été des choses très importantes qui m'ont permis d'identifier qu'une autre agriculture était possible, de bien montrer la pierre d'achoppement entre une évolution productiviste de l'agriculture et une autre vision, notamment des rapports au monde. Je crois que ça, c'est très important. C'est aussi dans ces années-là qu'a été créée très rapidement la Via Campesina, qui est un syndicat international, mondial, des paysans. Et ça, c'est vraiment quelque chose de central, c'est-à-dire que on s'inscrit dans une évolution de la paysannerie au niveau mondial, et donc du coup, ce qu'on produit chez nous et ce qu'on exporte ne doit pas déstabiliser les agricultures et les agriculteurs de partout dans le monde. Et il y a un exemple vraiment manifeste qui est la production de volailles à la fin des années 90, dans les années 90, au milieu des années 90, je crois qu'on était le premier producteur de volailles, hein, la France était le premier producteur volaille au niveau mondial, et donc on exportait du poulet congelé et des bas morceaux de poulet congelé, et notamment en Afrique. On a déstabilisé complètement la filière du poulet bicyclette en Afrique de l'Ouest. On a empêché la production locale, en plus dans des conditions, je vous dis pas, sous un climat tropical, le poulet congelé, ce que ça peut donner en termes de sanitaire, etc. Donc vraiment, il y a une responsabilité mondiale et une responsabilité vis-à-vis des paysans. Il y a une reconnaissance des paysans, les échanges qu'on fait au sein de la Via Campesina, c'est vraiment essentiel pour justement faire grandir tout le monde, voilà. Ça va dans le sens aussi du combat pour des échanges équitables, hein, et on peut pas importer des produits qui sont pas soumis à des normes, aux mêmes normes que chez nous, et de même pour nous, on peut pas continuer par exemple à exporter des pesticides, parce que c'est le cas aujourd'hui, hein, en ce moment même on exporte des pesticides qui sont interdits chez nous pour qu'ils soient utilisés dans d'autres pays. Donc ça, c'est vraiment une aberration, et il y a une très grande continuité de la Confédération paysanne, très grande ouverture sur ces questions là et c'est ça qui, moi, m'a motivé pour être à la Confédération paysanne, évidemment, et puis qui est un point vraiment de ralliement, quoi, cette responsabilité mondiale. Il y a un deuxième truc aussi sur lequel je voudrais insister, c'est que c'est l'adoption du vocable paysan. Parce que il a rien d'évident d'adopter le mot de paysan. Aujourd'hui, ça semble à la mode. Tout le monde le reprend. Même la FNSEA parle de paysannes et de paysans. La coordination rurale, n'en parlons pas. Le dernier reportage, le dernier documentaire très intéressant sur France 2 parlait de paysans, de l'évolution des paysans, voilà. Or, vraiment, c'était un mot qui était complètement désuet au milieu des années 80, quand la Confédération paysanne a vu le jour. Hein, voilà. Si ce mot n'était pas justement associé au mot de travailleur par les travailleurs paysans depuis les années 70, sans doute n'aurait-il plus été utilisé. Or, ça a vraiment un sens. C'est une victoire symbolique d'avoir imposé ce mot, à mon avis, parce que bah, ça montre que nos missions d'agriculteurs, ce n'est pas seulement une mission de production, ce n'est pas de production de matières premières, mais ça a aussi une responsabilité, comme l'a dit très justement Alain, une responsabilité vis-à-vis de la qualité des produits que l'on fournit aux consommateurs. Donc, toutes les luttes contre les OGM, contre les hormones, hein, voilà, parce qu'on n'a pas cité ça, mais il y a eu un moment, un boycott les codes du veau aux hormones qui a été un petit peu initié par les travailleurs paysans à la fin des années 70. Et c'est, voilà, parce qu'on arrivait à produire vraiment quelque chose qui ne correspondait pas à ce que les consommateurs désiraient. Donc qualité des produits, mais évidemment respect des ressources. Hein, respect des ressources, respect de l'environnement, voilà. Donc encore une fois, le mot paysan, il recoupe tout ça. C'est quelqu'un qui vit sur un territoire, donc c'est quelqu'un qui le respecte, qui est acteur de ce territoire et qui va bien au-delà de la fonction de production.
Voilà. Qui donne vie à des campagnes vivantes.
Ce que je voulais dire en complément de tout ça, c'est que l'agriculture productiviste, dans laquelle bon, on englobe tout ce qu'on n'a pas envie de voir, c'est-à-dire les pesticides, les méga-bassines, et puis produire toujours plus, toujours moins cher, et tout ça éventuellement pour l'export. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que cette agriculture productiviste, elle est complètement dépendante des importations. Entre autres, il faut beaucoup d'énergie, donc du pétrole, entre autres. Et puis aussi, c'est de l'huile de palme, c'est tout ça, c'est les engrais, c'est le soja. C'est toute cette agriculture-là, elle peut, je ne veux pas dire qu'elle va s'effondrer un jour, mais elle est complètement liée aux importations et ce qui peut se produire par ailleurs. Elle n'est pas du tout autonome et pas du tout pérenne.
Ça marche. Merci beaucoup Alain et Xavier de votre présence et merci à vous auditeurs et auditrices de Radio B pour votre écoute. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique. En attendant, retrouvez le Taureau par les cornes en podcast sur radiob.fr. Et pour suivre toutes nos actualités, rendez-vous sur notre site 1.confédérationpaysanne.fr ou sur notre page Facebook. Le Taureau par les cornes, proposition paysanne. C'est la chronique de la Confédération paysanne de l'Ain. 15 minutes par mois pour se pencher sur des questions agricoles avec des paysans et paysannes de l'Ain. Bienvenue à toutes et tous!